Nous sommes réunis ce soir pour entendre parler de la vision nouvelle du couple. Est-ce que vous avez un commentaire à faire à ce sujet?
Le commentaire sera que nous comprenons qu'il fait chaud. Mais nous aurons un enseignement. Pour vous parler d'une vision nouvelle, il faut d'abord vous parler de la vision ancienne. Car le nouveau naît de l'ancien. Nous allons essayer de vous dresser un tableau. Nous ne voudrions pas que vous soyez esclaves de ce tableau. Et nous dirons voir des étapes si bien dessinées que vous vous sentiez enfermé à l'intérieur de ces étapes. Bien au contraire, ce que nous allons proposer, c'est de comprendre que cette démarche que nous allons vous dessiner, vous devez comprendre que énergétiquement, vous la chevauchez. Vous n'êtes pas à un seul espace à la fois et ensuite changer de petit casier. Nous vous dirons que l'évolution se fait plutôt comme dans le mouvement de la spirale. Avant d'avoir complété un cercle qui vous permet de vous donner accès à un état supérieur, vous devez d'abord avoir pris le temps de faire le tour de ce cercle. Nous allons alors vous parler de plusieurs degrés différents d'évolution dans le couple humain. Disons que nous partirons de ce que vous avez nommé Adam et Ève et que nous terminerons à nouveau avec le nouvel Adam et la nouvelle Ève. Alors, si vous partez dès le départ de votre trajectoire dans cette expérimentation de la matière humaine, vous avez connu, nous dirons, la division, c'est-à-dire une entité qui était complète, qui a voulu être divisée pour ne pas vivre la solitude et pour expérimenter autre chose que la totalité. Cette division et cette séparation a créé le premier couple. Ceci, vous le pouvez le prendre de façon énergétique, de façon historique ou symbolique, selon que vous le voulez bien. Car nous devons utiliser des expressions pour vous expliquer des choses qui demanderaient, nous dirons, des détails très importants et multiples. Et nous n'aurons pas le temps de faire ceci ce soir. Cependant, nous vous expliquons que dans le départ de sa trajectoire, déjà l'être humain était divisé. Il avait connu un état supérieur où il avait une conscience de la déité qu'il était. Mais dans sa descente dans la matière, étant divisé, c'est là qu'il a perdu la mémoire. C'est-à-dire la mémoire de sa totalité. Alors, il a commencé à vivre, à se multiplier. Dans cette multiplication, il a traversé des races. Nous parlerons ce soir de la quatrième race et nous vous épargnerons ce qui a précédé. Disons que vous vous retrouvez dans l'état de la quatrième race, qui est la race qui est liée à la sous-personnalité, qui n'est pas encore personnalisée, mais qui est véritablement dans une énergie de non-personnalité. Dans cette étape de la quatrième race, les êtres que vous pouvez comparer aux êtres que vous avez connus dans la description de Sodome et Gomorre sont des êtres qui s'attirent réciproquement par une seule force qui est le désir. Le désir de pouvoir, le désir de possession et le désir passionnel. Alors ce couple, nous dirons, se rue l'un vers l'autre de façon irrésistible, ainsi que le font les animaux lorsqu'ils sont en période de rute. Ils ne peuvent pas éviter cette attraction, ils ne peuvent pas éviter cette forme, nous dirons, symbiotique. Alors, ce sont les premiers couples. Dans ces couples, il y a très peu de conscience. Ils existent encore un peu sur le plan terrestre, mais de façon décimée d'une certaine façon. Ils se nourrissent de pornographie, ils se nourrissent de masochisme et de comportements déviés. Mais dans toute cette circulation, vous pouvez dire que ces êtres, malgré la densité de leur matière et nous dirons l'attraction très atomique dans laquelle ils sont fixés, ont quand même le pouvoir d'évoluer puisqu'ils ont entre 5 et 12% de conscience. Lorsqu'ils atteignent un certain degré de conscience, disons le 12%, par exemple, ils commencent à se sentir très inconfortables de cette forme de couple qui est uniquement liée à cet attrait de pouvoir et à cet attrait de possession. Alors, ils commencent à se personnaliser. Ils développent une personnalité, nous dirons, souvent et dès le départ, selon la conscience globale ou la conscience collective. Nous vous dirons que ces êtres appartiennent à la cinquième race et qu'ils sont très nombreux sur le plan terrestre actuellement. Ils font partie de l'énergie de masse, ils sont liés à des comportements de masse, ils sont liés à des critères de masse et nous vous dirons qu'ils sont encodés avec des vibrations qui sont répétitives depuis des vies et des vies. Ces formes de couple se rassemblent avec une intention presque toujours la même, de créer la famille, de créer aussi la relation sexuelle et de vivre ensemble selon tous ces comportements très stéréotypés appartenant à ce groupe familial. Nous ne sommes pas en train de juger la famille, nous en reparlerons plus tard. Mais ces êtres sont beaucoup dans l'élément du second chakra, de la dualité, de la division. Ils s'unissent avec l'intention que l'autre qui est en face d'eux va combler leurs besoins, va répondre à leurs attentes, va les compléter. Alors, ils sont toujours tiraillés d'un côté et de l'autre parce qu'ils ne trouvent jamais le conjoint parfait qui va pouvoir répondre ainsi à leurs besoins. Ce qui se produit toujours dans cette progression, puisque l'être est toujours en progression, certaines prennent 100 ans à faire un cycle, d'autres 100 jours, mais ça, c'est selon le choix individuel et le choix d'incarnation de chaque être. Alors, ceux qui sont dans cette forme de couple sont soumis à ce que la société demande du couple. Que la femme ait tel type de comportement, que l'homme ait tel type de comportement, que la femme soit soumise, que la femme soit très attentive, qu'elle soit celle qui nourrit les enfants et le conjoint, et que le conjoint soit celui qui est le gagne-pain, qui a la responsabilité familiale, qui doit répondre si l'enfant a des tares, ou ainsi de suite. Et ceci, vous le connaissez, cette forme de couple, vous la connaissez très bien et vous la côtoyez quotidiennement. Cependant, dans ces couples, vient un moment donné où l'être qui évolue devient inconfortable, ou bien par culpabilité, ou par, nous dirons, une forme de difficulté au niveau de la conscience ou de l'ouverture de sa conscience, il va tolérer et supporter ce couple peut-être, ou bien il va faire éclater le couple. À ce moment-là, il a l'impression de vivre un échec. Il a l'impression que sa vie s'écroule. Il a l'impression qu'il va vivre une grande solitude et se retrouver très malheureux. Mais à l'intérieur de ce choc, puisque cette évolution se fait de choc en choc, sa conscience s'élargit. Il commence à sortir de la personnalité, à comprendre quels sont les jeux de l'ego, les jeux de l'émotion qui veut trouver l'autre coupable et se trouver toujours parfait. Sortant de cette forme énergétique, il commence à s'individualiser. Il commence à comprendre qu'il est là pour lui-même. Il commence à se dépouiller de toute l'énergie de masse. Il commence à se défaire, nous dirons, de tous les critères sociaux ou que la société reconnaît comme parfait, ou que certaines sociétés, parce que la société change à mesure que les individus changent dans cette société. Dans ce couple plus individualisé, d'autres formes de relations se préparent. Ce sont des relations qui sont plus franches, qui sont plus ouvertes. Ce sont des relations qui acceptent que l'autre soit différent. Et alors, ces couples commencent à devenir un peu parallèles. L'homme a ses propres activités, la femme les siennes, chacun a leur profession. Ils vont s'occuper des enfants qu'ils vont tenter aussi d'amener dans l'individualisation. Alors ceci crée une autre forme de famille qui n'est pas régie par des normes et des lois et des structures rigides, mais qui est régie par une plus grande ouverture. Souvent, dans le couple individualisé, les aspects karmiques se terminent. Car dans les couples liés à la personnalité et la sous-personnalité, il n'y a que des aspects karmiques. Mais dans le couple individualisé, les aspects karmiques disparaissent et l'être, nous dirons, retrouve plus facilement sa propre joie, sa source. Cependant, il est encore motivé beaucoup par une attente face à l'autre. Au niveau de la relation sexuelle, il va commencer à exploiter des formes nouvelles, à être dans une vérité différente avec le conjoint. Il ne fera plus l'amour pour plaire à l'autre, il le fera pour se découvrir lui-même. Il pourra même utiliser, nous dirons, des formes d'enseignement qui sont données dans certains yogas ou par ce qui est appelé le tantrisme. Par cette forme évolutive et ce mouvement qui va toujours en s'accélérant, puisque la pyramide est faite plus large plus par le bas et, nous dirons, plus étroite par le haut, alors l'être évolue plus rapidement. Il commence à percevoir plus parfaitement quels sont ses jeux, comment il les joue, qui il est véritablement devant l'autre. Et de façon sporadique, il commence à percevoir qu'il possède à l'intérieur de lui les deux forces, la force du féminin et la force du masculin. Alors ses besoins extérieurs par rapport à l'autre diminuent, non pas qu'il rejette l'autre, mais qu'il retourne davantage vers lui-même et commence à comprendre comment il peut devenir le propre maître de sa totalité. À ce moment-là, nous dirons, il se passe un événement difficile parce que le passage suivant sera un passage très étroit. Ce sera le passage de l'individualité à l'énergie de fusion. Pour entrer dans cette énergie de fusion, il faut véritablement avoir fait la vérité totale sur soi-même, soi-même comme individu personnalisé, comme individu individualisé, comme individu dans une société, dans le couple, dans ce qui était appelé la famille. Alors, nous vous dirons, il se peut qu'il y ait de grands détachements au niveau familial, et le choc qui va suivre ceci pourra être considéré comme un grand tremblement de terre parce que ceci créera un renversement total. Lorsque ce choc va se produire, bien sûr, à l'extérieur de ce couple et parmi les amis, Il peut y avoir des gens qui vont déserter, qui ne comprendront plus, qui diront que c'est hors de la réalité, que c'est loin du corps physique, que ceci est impossible, que c'est nier les chakras de la base, que c'est nier la réalité du corps physique. Et ce sera le grand combat qui se fera entre cette individualisation et cette énergie de fusion. L'énergie d'individualisation va conduire l'être jusqu'au sommet de l'astral, c'est-à-dire dans une forme d'énergie d'éclatement et de découverte de la réalité spirituelle. Mais c'est encore le sommet de l'astral. Ce n'est pas la spiritualité, nous dirons, dans toute son essence, parce que la spiritualité dans son essence amène l'être dans une fusion totale avec lui-même, le fait se reconnaître non pas seulement comme un être androgyne et fusionné dans sa propre énergie, mais comme un être qui n'est plus sexué. C'est-à-dire que toute cette énergie qui était l'énergie sexuelle et l'énergie de procréation devient l'énergie de co-création. Celui qui entre dans cet état n'y va pas du jour au lendemain. Il doit franchir des étapes l'une après l'autre. Dans ces étapes, il sera avec lui ou avec elle, nous parlons de la personne en général, il sera d'une transparence, d'une vérité. Il ne pourra plus supporter aucun masque, aucun subterfuge. Il devra toujours être dans la clarté. Il ne pourra plus être dans une relation sans dire la vérité. Ceci se fera progressivement et nous vous dirons que plusieurs sur le plan terrestre actuellement sont à ce point. Ils sont en train de faire ce passage. Alors là, ils se retrouvent dans le cœur, car ce passage se fait au niveau du cœur pour ensuite monter et se faire au niveau du 12e chakra dans la conscience et ce que nous appellerons le mariage mystique, c'est-à-dire le mariage de l'âme avec l'Adam nouveau, le mariage de l'Ève qui est l'âme supérieure avec l'Adam nouveau qui est l'esprit. Alors, dans cette fusion parfaite, spirituelle, nous dirons dans cette lumière qui ne supporte aucun, nous dirons, aucune tension venant de la matière, nous dirons l'être va commencer à se percevoir dans sa divinité. Cette perception se présentera de façon très modeste au départ. D'abord, il commencera par sentir à l'intérieur de lui une grande paix, une grande joie, une grande sérénité. Il n'aura peur de rien, ni de personne. Il saura qu'il habite le plan terrestre. Il vénérera ses frères, ses sœurs, dans la nature, autant que, nous dirons, dans la matière plus lourde. Il ne jugera rien, parce qu'il comprendra qu'il est ce tout. Alors, progressivement, il verra les barrières fondre autour de lui. Il verra les murs s'écrouler autour de lui. Il verra, nous dirons, comme une forme de fusion entre son énergie et l'énergie de tout ce qui est. Et alors, il se contemplera lui-même parce qu'il commencera à toucher sa propre divinité. Il ne niera ni le corps, ni l'émotion, ni le mental, mais il aura appris à les recycler dans le cœur pour les amener dans le passage qui le conduira à l'esprit. Dans ce passage, là où se trouve l'illusion, c'est que certains êtres veulent être tellement spirituels qu'ils oublient de terminer ce qu'ils ont à terminer dans, nous dirons, dans l'individualisation. Un autre danger, c'est de donner des images spirituelles au couple, de parler par exemple des âmes sœurs, des couples cosmiques, des couples éthériques, et alors de se créer d'autres formes d'illusions. Car nous vous dirons, l'ego, plus l'être sera évolué, plus il se masquera derrière les plus fins tissus et les soies les plus subtiles. Alors vous aurez sans cesse à revenir avec vous-même, à revenir dans cette création qui est la vôtre, à revenir dans cette incarnation que vous avez voulu, et à comprendre que dans l'énergie nouvelle, vous allez transformer, transmuter le corps physique, transmuter l'émotion, transmuter la dualité, transmuter le mental et l'ego. Et alors, vous aurez un mental supérieur, une émotion supérieure qui sera la contemplation, la joie et la paix. Vous aurez un corps supérieur qui sera votre corps de lumière. Et c'est ce passage que vous êtes en train de faire. Mais nous vous en prions, ne vous bousculez pas. Et nous vous disons à nouveau en riant, comme nous l'avons déjà fait, donnez-vous 35 ans. Ne jugez pas les gens dans leur expérimentation, car chaque fois que vous jugez quelqu'un à l'extérieur de vous, c'est une partie de vous-même que vous jugez, puisque vous êtes, bien sûr, cette conscience individuelle, mais aussi cette conscience collective. Nous vous dirons à ce moment-là, il n'y aura plus de familles telles que vous les avez connues. Il n'y aura plus de couples telles que vous les avez connues. Mais il y aura de grandes communions d'âmes, de grandes communions, nous dirons, dans ce corps christique définitif, c'est-à-dire non point d'une énergie canalisée par des êtres de matière, mais vous serez devenus des cellules de ce grand corps christique. Alors, à ce moment-là, vous serez des co-créateurs, vous serez des êtres de service, vous serez des transformateurs, vous serez des colporteurs de lumière, des colporteurs de joie. Et nous vous dirons, vous frapperez à certaines portes, on vous ouvrira, à d'autres, on vous dira, pas de colporteurs, mais vous saurez que partout où vous passez, peu importe la réaction des gens, votre lumière émanante et immanente touchera et transformera tout ce que vous aurez croisé en chemin. Après ce long commentaire, nous allons maintenant prendre un peu, si le directeur nous en offre, de cette lumière liquide, après quoi nous répondrons aux questions.
Voilà.
Le verre est léger. Merci beaucoup, directeur.
Bienvenue. Alors, les questions seront lues ce soir par Ginette Fortin. Alors, la première question.
Bonsoir, Ginette.
Bonsoir au grand chariot blanc. Est-ce que c'est assez fort?
Oui.
Et bonsoir à tout le monde. Comme première question, on pourrait dire que ce sont trois questions qui peuvent être comprises en une. Pour débuter, quelle est la différence entre l'âme sœur et l'âme complémentaire? Et ensuite, est-ce qu'on peut rencontrer l'âme complémentaire ici-bas? Et dans un troisième temps, on ne peut parler de couple sans parler d'âmes jumelles et d'âmes sœurs. Avez-vous des commentaires ou enseignements à nous offrir quant à ceci?
Certainement. Cependant, notre langage pourra peut-être contrarier votre conviction. Ce langage que vous utilisez d'âmes complémentaires ou d'âmes sœurs, vous les percevez presque toujours comme une âme extérieure à vous. Si vous appelez comme âme complémentaire l'âme supérieure, nous vous dirons qu'elle existe, mais elle existe avec vous-même, c'est-à-dire qu'il y a une âme inférieure qui a géré la race jusque, nous dirons, à peu près au temps de la venue de Christ Jésus. L'ouverture vers l'énergie de fusion s'est faite à ce moment-là, lorsque Christ a traversé la sixième initiation, car le passage en dehors du plan de l'astral se fait après la sixième initiation. Après la sixième initiation, il vous est possible de contacter votre âme supérieure, et alors vous pouvez recevoir dans la matière des vibrations nouvelles, des perceptions nouvelles, des sens nouveaux, et nous dirons même un système nerveux nouveau, un encodage nouveau, un ADN nouveau. Lorsque Christ Jésus est venu sur terre, il a vécu cette sixième initiation, après quoi il vous a donné l'exemple. Au moment où il s'est transfiguré sur la montagne, il vous a montré son corps de lumière. Au moment où il a multiplié le pain, il vous a montré que lorsque vous auriez dépassé les plans de l'astral, que vous seriez devenu à l'intérieur de vous un maître ascensionné, à ce moment-là, vous aurez contacté la possibilité de matérialiser ou dématérialiser la matière, la possibilité d'être dans plus d'un lieu à la fois, comme il l'avait fait lorsqu'il a marché sur les eaux. C'est-à-dire qu'il vous a démontré que par ce moyen, en dépassant le plan de l'astral, vous devenez maître de la matière. Vous n'êtes plus maîtrisé par la matière, mais vous êtes maître de la matière. Lorsqu'il a choisi pour mère cette femme appelée Marie, qui a été appelée la Vierge, vous avez eu aussi un exemple parfait de ce que sera l'être qui a dépassé le plan de l'astral. À ce moment-là, cet être pourra s'auto-féconder. Il pourra, nous dirons, s'auto-vivifier. Il pourra s'auto-guérir. Il pourra s'auto-transformer parce qu'il aura contacté l'âme supérieure. Alors l'âme inférieure qui avait géré, nous dirons, ou fait le travail entre le moi supérieur et les chakras de la base pourra se reposer et être recyclée énergétiquement. Alors si vous parlez de ces deux âmes, vous avez bien raison. Mais si vous cherchez l'âme dans la matière, nous vous dirons que quelque part, tant que vous n'avez pas atteint le degré de l'illumination, vous pouvez chercher cette âme sœur. Vous pouvez chercher, nous dirons, quelqu'un qui va marcher de façon parallèle avec vous, parce que ceci va vous amener jusqu'à la sixième initiation. Cependant, sachez bien que dans ceci, il peut y avoir une illusion, c'est-à-dire l'illusion de vous penser déjà dans l'énergie de fusion alors que vous n'avez pas terminé avec vos racines de l'astral. Tant que vous allez chercher le complément à l'extérieur de vous, vous êtes dans l'astral. Lorsque vous chercherez le complément à l'intérieur de vous, alors vous allez trouver des multitudes d'êtres qui seront vos âmes sœurs, qui seront vos frères, qui seront vos jumeaux, qui seront, nous dirons tout simplement, l'interrelation créée entre des cellules qui forment ce grand corps mystique. Nous savons que ce langage, vous aurez du temps pour le digérer. 35 ans, nous avons dit. Alors, ne prenez pas cela ce soir. Ne dites pas « je dois ce soir être au-delà de l'astral ». Asseyez-vous avec vous-même, regardez-vous là où vous êtes, prenez-vous là où vous êtes, Mais ne vous jouez pas de jeu.
Ça, c'est comme si c'était une invitation à être transparent avec soi-même.
Exactement. Et parfois, la transparence avec l'autre paraît plus facile, parce que la transparence avec soi-même, nous vous dirons que ça, c'est l'élément le plus difficile. On peut toujours colorer la vérité pour l'autre. C'est difficile de se la colorer pour soi-même.
Prochaine question.
Prochaine question. Le couple ne se transforme pas toujours en famille. Cependant, très souvent, serait-il possible que vous nous parliez de la nouvelle vision de la famille? Merci beaucoup.
Nous vous dirons, la famille, elle sera ce que vous êtes ce soir. Des individus libres qui décident de se regrouper autour d'une énergie, autour d'une vérité, autour d'une nourriture qu'ils veulent partager ensemble. La famille ne sera plus ce qu'elle était auparavant. Vous allez dire, mais les enfants qui voudront naître sur le plan, nous vous dirons, s'ils ont traversé le plan de l'astral, ils auront le pouvoir d'auto-créer un corps s'ils veulent venir sur le plan. Ils auront le pouvoir de venir en adulte comme le font les maîtres ascensionnés qui rematérialisent un corps, reviennent sur le plan à volonté et quittent ensuite, comme l'a fait Jésus après, nous dirons, sa sortie du tombeau. Il est venu, il est apparu, puis il est disparu et il revient encore. Mais il ne porte pas toujours ses vêtements de lumière afin de ne pas vous éblouir et afin que vous puissiez voir si vous jugez la matière.
Pour faire suite à cette réponse, de quoi aura l'air un couple dans la sixième race et leurs enfants s'ils décident d'en créer? Et d'abord, ces formes existeront-elles encore?
Elles existeront dans la sixième race, qui est la race individualisée, mais elle n'existera pas dans la septième race ou la race de la fusion. Nous vous dirons actuellement, sur le plan terrestre, il y a de très beaux couples. Il y a des couples qui sont venus ensemble pour des couples plus individualisés, plus libérés, nous dirons, de l'aspect de masse. Des couples qui sont dans la lumière, l'un en face de l'autre, qui se permettent d'évoluer, de se dire la vérité, de se refléter l'aspect manquant. C'est-à-dire, la femme se crée un homme pour véritablement voir l'homme qu'elle a à l'intérieur d'elle. Alors, dans cette notion de miroir et ce besoin de miroir, il y a ces formes de couple qui décident de créer des enfants ou de ne pas créer d'enfants pour plutôt investir leur énergie à leur propre individualisation. Il y a aussi des enfants qui reviennent sur le plan terrestre et qui acceptent de venir dans le plan terrestre tel qu'il est présentement, c'est-à-dire un plan qui est en train de sortir, d'être, nous dirons, aspiré vers la lumière et vers la sixième race. Et nous vous dirons, cette aspiration se fera dans les 25 ou 30 ans qui viendront. Et nous vous dirons ce que vous retrouverez ensuite. Ce sera des êtres très évolués, évolués spirituellement, des maîtres ascensionnés, des maîtres qui seront à leur ascension spirituelle, c'est-à-dire dans l'énergie électrique, ayant recontacté tout leur pouvoir de création. Et nous vous dirons qu'à ce moment-là, ceux qui ne pourront plus supporter cette énergie iront ailleurs, sur d'autres planètes, continuer, nous dirons, de créer leur démarche dans leur propre spirale. Mais les enfants qui viennent actuellement, parmi eux, il y a des êtres qui se hâtent de venir terminer des karmas. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui choisissent de mourir très jeunes. Il y a des enfants qui ont aussi accepté, qui sont des maîtres véritables, qui ont accepté de venir sur le plan terrestre pour passer, par exemple, à travers des maladies comme la leucémie et d'autres maladies très graves, pour être capable, nous dirons, de recycler cette énergie et la transformer. Ceci ne peut pas apparaître si vous jugez uniquement les faits tels qu'ils sont, mais si vous pouviez voir ces faits dans une autre vibration, dans un autre taux vibratoire, vous pourriez comprendre tout plein d'éléments par rapport au cancer ou au sida ou enfin à toutes les maladies qui viennent sur le plan actuellement. Ces maladies ont des objectifs bien particuliers. Elles ont comme objectif soit de purifier la race, soit de permettre à certains êtres de vivre plus rapidement, de sortir plus rapidement des karmas, et à d'autres êtres de venir purifier dans ce corps de l'humanité, nous dirons ce mot de la maladie, pour l'extraire et recycler cette énergie en énergie de lumière. Alors, la famille, actuellement, elle va demeurer un peu ce qu'elle est. Elle va devenir moins nombreuse. À mesure que la race va aller dans, les êtres vont aller dans la sixième race, ils auront moins besoin d'avoir des enfants pour nourrir l'ego. Car beaucoup de parents ont eu des enfants pour nourrir l'ego. Ils mettent les photos de l'enfant partout, ils montrent ceci comme un trophée, ils voudraient que l'enfant soit parfait comme eux, qu'il soit médecin si le père est médecin, qu'il suive la voie des parents et de l'enseignement des parents, et nous vous dirons, ça c'est l'ego qui nourrit cette forme. Mais l'ego, il commence à se sentir très inconfortable. Et nous vous dirons qu'il sait que ces derniers temps achèvent. Il sait qu'il va être recyclé et il a peur de la lumière. Mais nous vous dirons, rassurez-le et dites-lui comment la lumière est saine, joyeuse, sereine et pacifiante.
Comme prochaine question, quel est le plan et le sens de la fidélité dans cette nouvelle vision du couple et quel est le sens de la continuité versus la vie de couple, toujours en regard avec cette nouvelle vision du couple?
Nous vous dirons que la vision du couple de la sixième race, celle que nous avons appelée la race plus individualisée, cet objectif n'a pas à vouloir créer une fidélité de l'un par rapport à l'autre, mais de créer une fidélité qui soit individualisée. Non pas une fidélité qui soit une fuite, mais véritablement une fidélité qui soit individualisée, de sorte que l'être comprend qu'il n'a qu'à être fidèle qu'à lui-même. Ceci suppose une grande vérité, vérité par rapport à lui, vérité par rapport au conjoint. Ceci suppose une grande transparence, ceci suppose une grande ouverture de conscience. Et nous vous dirons parfois un manque de sommeil. Alors, parce que c'est difficile ce passage, c'est terrible, c'est préoccupant, vous avez appris à être fidèle à l'autre, alors que c'est à vous-même que vous avez à être fidèle. Et des couples parallèles pourront exister, deux êtres totalement fidèles à eux-mêmes qui peuvent se retrouver dans l'échange. Alors nous vous dirons, ça c'est le couple de la sixième race. Mais cette fidélité, elle ne sera pas ni au couple, ni à l'église, ni à l'autre, ni à la société, ni à la réputation. Elle sera uniquement une fidélité à soi-même. Ça, c'est la fidélité la plus exigeante.
Pourquoi y a-t-il tant d'éclatements chez les couples?
Nous croyons que nous avons un peu donné la réponse. Vous comprendrez que les couples éclatent parce qu'ils ne peuvent. Souvent, ils vont éclater à cause des règlements karmiques qui se terminent. Nous vous dirons si des êtres sont ensemble depuis 110 ou 112 vies, qu'ils ont toujours répété le même type de comportement répétitif, que l'un était victime, que l'autre était persécuteur, et ensuite vice-versa, nous vous dirons, ils reviennent dans cette vie avec une conscience qui a évolué dans ce cycle de la spirale. Alors, ils acceptent volontiers de revenir ensemble pour terminer des aspects karmiques. Et plus les êtres sont évolués, plus ils acceptent de se séparer avec beaucoup de respect pour l'autre conjoint lorsqu'ils comprennent cette réalité. Car lorsque vous avez terminé une vie karmique avec quelqu'un, vous n'êtes plus obligé de rester dans cette énergie. Vous pouvez aller ailleurs, terminer d'autres karmas ou évoluer dans cette spirale jusqu'à ce que vous vous soyez contacté vous-même dans votre propre lumière.
Très souvent, dans ces formes de rupture, il y a une très grande peur de solitude qui s'installe. C'est possible d'en parler, s'il vous plaît?
Certainement. C'est la même solitude et la même peur que vit l'enfant lorsqu'il va quitter le ventre de sa mère. Il a été tenu au chaud, il a été bercé, il n'a pas payé de compte d'électricité, il a été nourri, il n'a pas payé l'épicerie, il a été porté et supporté, il n'avait rien d'autre à faire que de laisser son corps croître dans un ventre très chaud et très supportant. Mais voici que tout à coup naissent les contractions. Voici que tout à coup, ce beau liquide supportant s'écoule et qu'il se retrouve avec lui-même. Il sent cette contraction, il sent qu'il doit traverser ce passage et il a peur parce que c'est l'inconnu. Alors, lorsque vous avez peur de la solitude, c'est que vous avez peur de l'inconnu. Mais cet inconnu qui est en face de vous, c'est vous. Lorsque vous vous connaissez véritablement et que vous avez touché le divin en vous, vous n'avez plus peur de la solitude. Au contraire, vous l'appelez pour mieux vous voir. Mais vous n'êtes peut-être pas encore rendu là. Respectez-vous dans votre démarche. La solitude, elle existe uniquement dans l'émotion. Elle n'existe pas dans la réalité. Vous pouvez être dans une foule de 100 personnes, être totalement seul. Vous pouvez être seul dans votre maison et communiquer avec 1000 personnes à la fois au niveau énergétique. C'est vers là que vous allez. Nous ne disons pas que vous êtes rendu, nous vous donnons un livre à lire pendant 35 ans.
Au cours des conférences précédentes, il a été mentionné que les chakras de la base devaient être fermés. Est-ce fermé ou transmuté? Est-ce, s'il vous plaît, expliqué?
Ah, bien. Nous comprenons que certaines personnes ont vécu de la colère à ce niveau, en se disant, tiens, je dois me trancher à la taille. Comment pensez-vous que je vais marcher? Est-ce que je ne suis pas sur le plan terrestre pour vivre l'expérimentation et toute cette colère? C'est très bien. Nous vous dirons, cette colère, c'est contre vous que vous l'avez et contre personne d'autre. Car toutes vos émotions, elles vous appartiennent, elles sont votre propriété, elles sont votre création. Lorsqu'il est dit qu'il faut éteindre ou fermer les chakras de la base, comprenez bien aussi qu'il y a eu un exercice qui a été proposé, qui était de fermer l'ancienne lumière pour ouvrir la lumière nouvelle, c'est-à-dire enlever dans le chakra de la base toute l'énergie qui était liée à la sous-race ou à la race appartenant à la sous-personnalité et à la personnalité également, pour être capable de prendre l'énergie venant de la gorge et du cœur pour qu'elle puisse descendre, c'est-à-dire cette énergie d'individualisation dont nous avons parlé du couple individualisé. Ensuite, nous avons parlé que l'énergie du troisième œil, ce troisième œil qui est, nous dirons, le sixième sens, alors que l'œil du cœur est le septième sens, nous vous dirons de prendre ce sixième sens et de le descendre dans le chakra de la polarité pour que cette polarité qui est deux devienne un, comme le troisième œil est un et comme il voit davantage que vos deux yeux, parce qu'il voit dans le futur, parce qu'il voit dans l'énergie, parce qu'il voit au-delà de la limitation et au-delà de la matière. Alors, nous n'avons pas dit de tuer ces chakras. Nous avons dit de faire descendre une énergie plus puissante. Nous avons dit ensuite de prendre l'énergie de la couronne et de l'amener au niveau du plexus solaire. En faisant ceci, c'est que vous prenez l'énergie du septième plan de l'astral, vous l'amenez dans le plexus solaire et là, dans le cœur, la gorge, le troisième œil, le septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième chakra, vous faites de l'espace pour la descente de l'esprit et pour la descente de l'âme supérieure. Alors, vous n'êtes privé de rien, bien au contraire. Vous allez être stimulé, vous allez vivre dans le cœur des orgasmes que des milliers de personnes tout ensemble pourraient avoir au niveau de la chair et qui n'égaleraient pas l'orgasme du cœur. Mais ça, c'est une énergie que vous ne connaissez pas encore. Alors, vous êtes indécise. Donnez-vous les 35 ans pour fermer votre interrupteur.
Alors, pour enchaîner, on demande à quoi sert le tantrisme exactement? Est-ce vrai qu'il aide à contacter la fusion lumière?
Nous avons dit précédemment que autant le tantrisme que certains yogas qui sont proposés par des maîtres spirituels peuvent amener l'être jusqu'au sommet de l'astral, c'est-à-dire jusqu'au plan que vous pouvez appeler de lumière, qui est une certaine forme de lumière, qui est le plan de l'illumination. C'est de ce degré d'illumination dont parlait cette femme appelée Thérèse d'Avila lorsqu'elle parlait, nous dirons, d'une forme d'épousaille. Elle savait que là, c'était, nous dirons, la limite de ce que la nature animale peut supporter en termes de lumière. Mais l'être humain est en train de sortir, nous dirons, du gant de son animalité pour entrer dans une conscience supérieure. Et c'est ceci qui va se faire pendant l'étape prochaine. Et cette étape, nous la calculons toujours sur 35 ans. Vous pouvez la calculer sur 150 ans. Mais qu'est-ce que 150 ans sur des millions et des millions d'années? Là, vous êtes dans un passage irréversible, un passage qui n'a jamais été connu sur le plan encore. Alors, le tantrisme ou le yoga, ainsi que nous l'avons dit, peut conduire l'âme au sommet de l'individualisation, c'est-à-dire à l'illumination. Après quoi, l'âme comprendra que le conjoint qui est le reflet en face d'elle d'une grande pureté, d'une grande simplicité, d'une grande vérité, n'est là que pour lui montrer sa propre totalité.
Est-ce qu'on peut dire à ce moment-ci que le tantrisme est un instrument de conscience, comme parmi tant d'autres?
Exactement. C'est un instrument, ce n'est pas une fin. Si vous disiez, par exemple, est-ce que nous devons pratiquer la chasteté? Nous vous dirions, la chasteté, ce n'est pas un instrument, c'est une fin. Elle a été galvaudée parce qu'elle a été utilisée comme un instrument. Mais la chasteté, c'est la pureté du cœur. Ce n'est pas, nous dirons, l'absence d'une relation sexuelle, la chasteté. C'est une grande lumière qui s'installe dans le cœur. C'est l'épousaille de l'âme supérieure avec, nous dirons, tout l'être.
Existe-t-il des gens qui ont choisi ou qui choisissent de recontacter leur unité et leur lumière par le biais d'une démarche de couple? Je pense entre autres à Babaji et à sa compagne, et quel serait alors leur rôle comme couple? Ont-ils contacté leur propre unité avant de se rencontrer?
Nous vous dirons que oui, ils avaient contacté leur propre unité avant de se rencontrer, parce qu'ils sont d'une certaine façon des maîtres ascensionnés dans la première ascension, c'est-à-dire l'ascension qui se passe après la sixième initiation, comme l'a fait Jésus. Jésus est ascensionné avec son corps de lumière, c'est-à-dire qu'il a transformé la matière de son corps en lumière. Il a contacté, nous dirons, une énergie très puissante de création et il a été capable de créer cette transformation. Mais nous vous dirons que Babaji, comme d'autres maîtres spirituels très évolués, n'ont pas atteint la seconde ascension, la seconde forme ascensionnelle qui est véritablement la sortie de l'énergie atomique pour entrer dans l'énergie électrique. Ça, c'est ce qui s'en vient. Et nous dirons que cette seconde ascension n'a pas encore été vécue de façon, nous dirons, totale ici, sur le plan terrestre encore. Il y a des êtres, et ils commencent à être de plus en plus nombreux, qui contactent de façon sporadique cette énergie, mais qui ne sont pas encore installés dans cette, nous dirons, énergie d'ascension électrique encore.
Quand on parle de détachement, mon esprit comprend le concept, mais mes cellules, eux, elles, ne comprennent pas. Je dois vivre de l'indifférence.
Nous vous dirons que... Est-ce que cette question est terminée?
Je l'ai dit, merci.
C'est bien. Nous accueillons ceci, chère dame. Sur un plateau d'argent ou d'or, comme vous le préférez. Ce que nous dirons à ceci, c'est que, d'abord, dans cette question, il y a beaucoup de justesse. C'est que vous allez commencer par comprendre les concepts avec votre mental. Au début, avec votre mental inférieur, qui lui va donner les coups de pied dans les rancards. Ensuite, vous allez commencer à comprendre avec votre mental supérieur, avec votre moi supérieur. Vous allez recevoir des rêves. Vous allez comprendre que le détachement, c'est la libération et c'est l'attachement à vous-même. Ceci va se faire progressivement. Mais vous avez des milliards et des milliards de cellules qui ont été codées par votre ADN actuel et qui ne connaissent qu'un seul langage, qui est le langage connu dans la réalité qui a précédé. Alors, nous vous dirons, ils se retrouvent dans une grande salle universitaire avec un langage qu'ils ne comprennent pas. Alors, vous devez développer beaucoup d'indulgence pour vos cellules, c'est-à-dire beaucoup d'indulgence, de tolérance, de patience, de bonté avec vous-même. Vous devez aussi développer ce que nous appelons l'énergie de la volonté et de la sagesse. Non point d'une volonté qui est un volontarisme, mais qui est comme un mouvement de direction qui est enligné sur un seul élément qui soit votre divinité. Alors, à ce moment-là, peu importe que vous soyez ballotté vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas, que vous entendiez toutes sortes de propos autour de vous. Ça, ce n'est pas important. Vous êtes aligné. Votre boussole a toujours le nez collé sur le nord et c'est là que vous allez. Vous le savez intérieurement. Alors, soyez tolérant avec vos cellules et sachez que plus vous allez attirer la lumière à l'intérieur de vous, plus vous allez vivre des bouleversements. Plus vous allez vous sentir parfois sur une mer si houleuse que vous allez avoir envie de changer de cap. Mais nous vous dirons, replacez le cap sans cesse sur cette divinité qui vous habite. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes supporté, vous êtes aimé, vous êtes attendu.
Vous pouvez vous offrir un peu de lumière liquide?
C'est si délicieux. Est-ce que ça, c'est des orgasmes?
C'est liquide.
Ça, c'est votre petit tournant.
Alors, la prochaine question, s'il vous plaît.
Si je me sais sur le chemin de ma propre unité-lumière et que je rencontre un homme qui se sait sur ce même chemin, est-ce possible de faire la route ensemble en partenaire, miroir et complice, ou est-ce une illusion que de penser ceci?
Ce n'est pas une illusion. Nous vous dirons ceci est possible, mais lorsque vous aurez atteint un certain degré, vous aurez traversé le miroir. Et vous n'aurez plus besoin de miroir. Mais donnez-vous le temps. Si vous avez besoin de ce miroir, utilisez-le. Si vous le cachez dans votre garde-robe en disant « Moi, j'ai traversé le miroir », vous verrez bien qu'il en sortira 100 de 1000 autres garde-robes. Si vous niez ce qui est, vous le multipliez parce que vous créez l'obsession. Il ne faut pas nier ce qui est, mais il faut sans cesse être transparent. C'est le double mouvement. Ne pas nier, c'est-à-dire s'accueillir où on est en faisant toujours la transparence, en allant sans cesse décoder derrière chaque geste, chaque pensée, chaque mouvement allait décoder la motivation cachée derrière. Et si votre bateau est enlié, un jour vous verrez que le miroir disparaîtra. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez, vous tous qui êtes venus des milliards de vies ici sur ce plan, des couples qui ont été éternels? Même s'ils se sont jurés une fidélité éternelle. En connaissez-vous? Vous nous les présenterez.
Comment transformer les relations de pouvoir au sein du couple?
En retrouvant votre propre pouvoir. Si vous retrouvez votre pouvoir, vous ne voudrez plus jouer le jeu de pouvoir. Parce que vous allez comprendre que vous possédez toute la puissance féminine et toute la puissance masculine à l'intérieur de vous et que lorsque ces deux forces s'épousent pour créer l'énergie androgyne, vous allez comprendre combien ceci est délicieux et pacifiant et vous ne voudrez plus jouer de pouvoir. Dites-vous bien que si votre conjoint joue de pouvoir, c'est parce que vous jouez de pouvoir. Nous donnerons plus tard un enseignement sur ce que sont les jeux de pouvoir entre les hommes et les femmes.
Une partie de mon énergie désirerait un partenaire alors que l'autre partie l'ignore. Les hommes que je rencontre reflètent une forme de respect amical et qui ne va pas au-delà. Comment trouver l'être idéal avec qui partager mes ou nos transformations?
Allez au-dedans de vous. demandez à votre âme supérieure si, dans la décision que vous avez prise en venant ici sur le plan, vous aviez ou pas la conscience que vous deviez vivre en couple. Et alors, vous allez recevoir une réponse dans le cœur, peut-être une réponse qui viendra frustrer le désir, mais une réponse qui viendra nourrir le cœur. Cette réponse, elle est à l'intérieur de vous et nulle part ailleurs. Que vous soyez divisé, que vous soyez déchiré, parce que vous voudriez attirer et que vous n'attirez pas, comprenez que dans ceci, il n'y a que votre sagesse. Nous devrons bientôt quitter la fonte. Nous pourrions prendre encore une ou deux questions.
La purification de notre canal permet une canalisation et une créativité très intense, mais aussi un libido tout aussi intense. C'est, je pense, la circulation de la Kundalini. Ce n'est pas désagréable, mais comment la contrôler si cela se peut?
Nous vous dirons, ça, c'est l'énergie qui vient de l'illumination dont vous parlez dans... nous dirons dans ces propos. Tant que vous êtes dans ce septième palier, nous vous dirons, vivez cette réalité. Appelez toujours l'énergie de votre âme supérieure. Et nous vous dirons, vous allez trouver lentement, nous dirons, une forme d'équilibre à l'intérieur de vous. Cette libido, comme vous le dites, cette énergie érotique, comme vous le dites, elle fait partie de cette énergie de l'astral supérieur et vous avez à la contacter, à la voir, à la vivre, à la connaître, à la traverser. Si vous voulez sauter par-dessus, c'est là que vous allez vous blesser. Mais si vous acceptez de la traverser, c'est là que vous allez la connaître par le dedans et vous allez en connaître non seulement la force et le pouvoir, mais aussi la limitation, c'est-à-dire la partie qui vous retient en dehors de vous, dans cette énergie. Et nous dirons, enlignez-vous sur l'énergie de fusion. Là, vous vivrez bien au-delà de la libido. Et elle se recyclera d'elle-même, cette libido.
J'aimerais avoir vos commentaires sur la guérison avec l'énergie universelle du prana que nous pouvons capter et transmettre. Pouvons-nous et désirons-nous développer ce pouvoir? Si oui, comment?
Nous vous dirons, vous pouvez utiliser ce pouvoir, vous pouvez le développer. Il y a des maîtres qui enseignent ceci sur le plan terrestre. Tant que vous parlez de guérison, vous parlez d'astral. Que vous parliez de guérison de votre corps physique ou de votre corps émotionnel ou de votre corps mental ou de tous les corps que vous voudrez, vous parlez de guérison, donc par opposition, vous parlez de maladie. Alors, si vous avez besoin d'établir ces guérisons, de guérir des cellules à l'intérieur de vous qui, nous dirons, sont encodées trop lourdement, vous pouvez le faire. Ce que nous allons vous suggérer, cependant, c'est d'appeler un nouvel encodage, un nouvel ADN, c'est-à-dire de vous centrer sur l'énergie du thymus, sur l'énergie du cœur et d'appeler la lumière toute puissante du dixième rayon dans ce chakra du cœur. À ce moment-là, nous vous dirons que vous n'aurez pas besoin de pratiquer des exercices bien sophistiqués pour être capable d'arriver à créer cette guérison. Nous vous dirons que la lumière ne supporte pas l'obscurité. Alors plus vous allez intégrer la lumière dans vos cellules, plus tout ce qui est obscur et les anciens encodages de l'ancienne ADN vont finir par se dissoudre, par se diluer, par disparaître. Alors, que la lumière soit avec vous, que l'énergie christique soit avec vous, que la conscience soit avec vous, c'est le chemin, c'est la voie pour traverser dans cette énergie d'unité avec vous-même et avec le tout et avec chacun d'entre vous. Nous sommes très heureux de cette démarche profonde que vous faites, car nous vous dirons que nous sommes propulsés par votre force par votre puissance et par votre intérêt à grandir dans ce monde spirituel qui vous habite. Alors que la joie soit avec vous, et tant que vous avez besoin de marcher deux par deux, allez-y, c'est bien, mais viendra un jour où vous marcherez deux par deux avec vous-même. Maintenant, directeur, nous allons quitter la forme.
Merci beaucoup.
Bienvenue.
Nous remercions le chariot blanc, les archanges qui ont travaillé très fort ce soir, et tous les êtres de lumière qui sont venus nous accompagner au cours de cette soirée.
Bienvenue.
Et dans ce mouvement d'énergie pure que nous accueillons, nous émettons également les vibrations du son, du souffle et la lumière. Amen. Afin que ce son, ce souffle et la lumière se répercutent sur toute la terre et dans tous les univers.
Que ceci soit accompli.
Suivant le besoin, veuillez s'il vous plaît ajuster tout haut vibratoire, le système sanguin et tout système physiologique qui ont pu être ralentis, afin que ceux-ci reprennent leurs vibrations de ici et maintenant.
This is done.
Alors que ce corps se réveille, se sentant pleinement régénéré et complètement équilibré.